Bien, alors je vous propose que nous entamions cette dernière séquence de juillet sur le temps avec la question de la fin des temps, de l'escatone comme on dit. Je vous ai mis sur ce tableau les deux mots qui peuvent désigner la question de la fin. Le premier c'est eschatos, c'est ce qui donne eschatologie, c'est l'étude de la fin. En dessous, il y a le mot télos qui est souvent utilisé aussi, qu'on va d'ailleurs revoir dans quelques endroits ici. Télos, c'est la fin, mais avec l'idée de la volonté, avec l'idée d'un sens. Eschaton, c'est plutôt dernier. Et vous voyez, le télos, c'est ce qu'on va utiliser dans l'expression la fin qui justifie les moyens. Téléos. Enfin, télos, ça donne aussi téléologie, c'est l'étude de la fin, et le théologien Kierkegaard avait développé cette idée d'une suspension téléologique de l'éthique. C'est-à-dire que dans certaines occasions particulières, la morale est mise entre parenthèses pour atteindre un niveau supérieur que la morale ne permettrait pas d'atteindre. Il développe ça à partir de la question du sacrifice d'Abraham et d'Isaac. Il y a une suspension téléologique de l'éthique. Bon, mais on ne va pas partir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, à votre avis, quand on parle de la question de la fin des temps, des derniers temps, à quel genre de texte on peut aller se référer. Et pour vous, qu'est-ce que ça évoque comme image? L'Apocalypse.
Oui. En fait, on peut demander aussi s'il y avait besoin d'écrire.
Ça, c'est un petit contentieux avec le livre de l'Apocalypse.
Ça fait penser, pour moi, ça me fait penser à le dernier saut de Bergman.
Oui.
Bon, on fait des trucs qui ne sont pas forcément marrants.
Non.
Qui sont plutôt austères, même, et qui sont vengeurs. Enfin, il y a quelque chose de très particulier. Il y a une imagerie qui demande à décoller.
D'accord. Ça me laisse entendre que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du livre de l'Apocalypse, qui, dans ses deux derniers chapitres, finit vraiment très très bien.
Ah oui.
D'accord. Oui. Mais à la fin, il y a la Jérusalem céleste, tout ça, il y a l'arbre de la vie, mignon. D'accord. Certes. Alors, ça, c'est une question à part entière. Est-ce que ça. Donc, il y a cette idée que ça finit mal, en fait, dans une certaine mesure. D'accord. Donc, la vision des ossements desséchés est ranimée. D'accord. Sur la question des temps derniers, d'autres idées, d'autres...
Il y a le septième saut, évidemment, ça c'est formidable, avec le livre de la vie, et effectivement...
D'accord. Saut, cette fois, c'est ce qui est scellé.
Dans les sujets d'actualité, et il n'y aura pas ni marine, ni épouse, comme dit Dieu.
Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, selon ce que dit Paul par ailleurs. Alors moi, je vous ai pris deux passages bibliques qui sont un peu moins saignants que ceux-là, peut-être, mais qui parlent précisément de ces questions tout de même. Il y a un passage dans l'Évangile de Jean, et puis un passage dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. Évangile de Jean, on l'avait vu un peu cette année dans le cadre de notre étude biblique. C'est chapitre 6, c'est l'épisode du pain de vie. En fait, c'est un texte eschatologique. Et puis l'épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 15, où il est question de résurrection. On va commencer par prendre... le texte de Jean, c'est celui que vous avez dans le premier cadre sur la feuille qui circule. C'est donc le Jean chapitre 6, les versets 39 à 54. Donc c'est dans ce grand chapitre 6 consacré à cette discussion sur le pain de vie, etc. Et les versets 39 à 54 sont à la fois ceux qui nous intéressent par rapport à cette fin des temps, et puis, parce qu'ils sont absolument évoqués dans la bouche de Jésus, et puis parce que c'est le point central de ce passage. Alors, comme vous voyez, le chapitre 15 de Corinthiens est assez long, Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la lecture et puis on va commenter au fur et à mesure. On ne va pas faire comme d'habitude, on lit et ensuite on y va. On va prendre un peu verset par verset et puis je vais essayer d'attirer votre attention sur quelques points remarquables. Et puis vous, dès que vous avez des questions, des remarques, des choses à partager, vous n'hésitez pas. Que ce soit en forme d'intuition, que ce soit en forme de critique, que ce soit en forme de mécompréhension, on est là pour faire ça ensemble. Donc c'est Jésus qui parle. Or c'est ici la volonté, donc vous voyez c'est téléma en grec, et ça renvoie à cette idée de télos aussi. Donc voici la volonté de celui qui m'a envoyé, donc c'est une allusion au Père Céleste qui l'a envoyé, on va le voir ensuite, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et alors ce dernier jour en fait, c'est ce que vous avez à la fin du verset 39 en grec, Te escate emera, donc c'est, voilà, dernier jour. Alors, dernier jour au sens de, je dirais, celui qui vient en dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connotation. C'est le dernier de la liste. Vous voyez ? Dans ce sens-là, c'est le dernier de la liste. Ce n'est pas le jour ultime, ce n'est pas celui qui serait au-dessus des autres. Ça a la même connotation que... Quand il y a dans l'évangile de Luc au chapitre 14, par exemple, cette question du premier et du dernier. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a l'idée selon laquelle celui qui se met au fond va être mis devant ensuite. Donc celui qui est dernier de la liste va être mis devant. Donc là, c'est vraiment celui qui arrive, c'est vraiment celui qui arrive en bout de chaîne. Et alors, vous voyez, ici, la question du dernier jour, c'est la résurrection, en fait. Là où on se dit que ça finit mal, en principe, le dernier jour, en fait, ça parle de résurrection, ici. Alors, je dois avouer que, quand je vous ai posé la question, quelles sont vos idées par rapport au dernier jour, au temps dernier, etc., je m'attendais à ce que vous me parliez de Matthieu 25, le jugement dernier. Bon... En principe, ça marche bien. Vous avez été futé, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Bon, tant pis pour moi. Parce que la question tout de suite que l'on voit sur le temps, le dernier temps, ce n'est pas celui du jugement en termes de condamnation, c'est vraiment la question de la résurrection. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Comment finit l'histoire ? Quel est le dernier épisode de l'histoire ? Eh bien, c'est la résurrection. Dans cette perspective de Jean. Le jugement, quand Matthieu en parle, au chapitre 25, il parle de jugement des nations sans parler de temporalité. Et au fond, on peut se dire que le jugement des nations se fait dans le temps présent, dès aujourd'hui. Et alors, je vais vous mettre un deuxième mot au tableau. Quelques théologiens qui ont développé un concept dont vous n'avez certainement pas encore entendu parler. C'est l'eschatologie proleptique. L'eschatologie proleptique, ça, vous n'allez pas me faire le coup, vous en avez déjà entendu parler. En fait, il faut entendre proleps. Proleps, c'est l'antécédent. Par exemple, je l'ai mangé ce gâteau, le L'. C'est une prolepse, c'est l'antécédent du substantif qui va arriver après. Et donc, ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est en fait une appellation abusive, en fait c'est proleptique. C'est-à-dire que ça annonce ce qui sera vraiment dernier, à savoir la résurrection. Du coup, vous voyez, ça relativise cette image qu'on a du jugement dernier, qu'on a souvent sur les tympans des cathédrales ou des choses comme ça. En fait, ce jugement, il n'a rien de dernier. Au sens où il serait définitif. Et en revanche, il est bien question de jugement et pas de condamnation, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire le tri. Et on va voir avec la première épître de Paul aux Corinthiens que ce qu'il y a avant le temps dernier, c'est le temps où on fait le tri. Et on va voir comment s'opère ce tri. Donc, verset 40, je reviens sur Jean 6. « C'est ici la volonté de mon Père. » Alors le P majuscule dans la traduction française est exagéré, mais ça renvoie à l'idée que c'est le Père Céleste. que quiconque discerne le Fils et croit en moi ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, il y a deux notions intéressantes. Il y a le fait de discerner. Donc ça, c'est un verbe qu'on avait déjà vu, notamment au moment de la résurrection. Théoréo. Donc c'est ce qui donne théoriser, en quelque sorte, ça, pour discerner. Donc c'est regarder avec attention. Discerner, c'est un mot qui peut être, un verbe qui peut être utilisé dans le récit de Pâques, d'ailleurs. Donc on regarde en essayant de donner du sens à ce que l'on voit. Et qu'est-ce qu'il s'agit de discerner ? C'est de discerner le Fils. Et qui croit en lui a zon aionion. Et donc aionion, c'est le mot qu'on avait vu la fois dernière au sujet de l'éternité, au sujet de Léon. C'est ce qui désigne à la fois le temps, mais aussi la qualité du temps, c'est-à-dire une logique de vie qui correspond à ce que Dieu espère dans cette perspective-là. Ou alors, on avait vu qu'il y avait aussi l'autre éon, l'autre aion, qui était le monde avec sa logique propre, et qu'il y avait une sorte de conflit entre les deux. Et moi, donc je le ressusciterai, donc c'est le verbe anistémie, hein, c'est remettre debout, dans le dernier jour. Et alors là, on va avoir un grand retour en arrière avec les Juifs qui murmurent contre lui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire du murmure ? Quand vous entendez murmure, à quoi pouvez-vous penser dans les textes bibliques ? Alors, c'est pas un murmure quand il se manifeste, c'est plutôt une voix de fin silence. C'est une call d'Amavolaka. C'est pas tout à fait le murmure. Le murmure, en fait, c'est péjoratif. C'est les messes basses, en quelque sorte, si on voulait cliver un peu. Le murmure, c'est dans le désert, après la sortie d'Égypte. C'est le peuple qui murmure contre Moïse, contre l'Éternel, parce qu'il n'en peut plus d'errer, de ne pas avancer, d'être dans cette condition-là. Et on a ici le signal qu'il va y avoir un parallèle entre l'aujourd'hui de Jésus et l'autrefois de Moïse, et que Moïse et Jésus vont être mis en parallèle, et ils vont être comparés. Et évidemment, cette comparaison, elle est utile parce qu'elle peut être transférée à notre propre aujourd'hui. Donc les Juifs murmuraient contre Jésus, c'est ce qu'avaient fait les Hébreux autrefois, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». C'est quoi ce pain descendu du ciel ?
C'est la manne.
C'est la manne. Vous voyez, on est bien dans le registre de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie de la maison de servitude. Et ce chapitre 6, c'est un chapitre qui nous dit comment on fait pour cesser d'être l'esclave des choses temporaires et d'être libre de pouvoir se nourrir des choses éternelles. Comment on fait passer l'essentiel avant le secondaire. Et ça va être un jeu là-dessus. C'est en fait l'impermanent par opposition à l'éternel. Si on prend des catégories, l'impermanence est catégorie plutôt extrême orientale. Donc, il disait, n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci, dit-il, je suis descendu du ciel ? Donc, vous voyez, ça, c'est les tenants de la théologie naturelle. On connaît son père biologique, on connaît sa mère biologique. Donc, qu'est-ce qu'il peut sortir d'autre que du pur naturel ? On est dans une logique fermée sur elle-même. La transcendance ne peut pas s'exprimer dans ce qu'on va appeler l'immanence, dans notre nature humaine, dans la perspective de ces personnes qui sont rassemblées autour de Jésus. Jésus donc répondit : « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Alors ça, le fait qu'on dise que nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, c'est intéressant parce que c'est un des points d'accroche de la théologie du process. La théologie du process dit « Dieu, c'est ce qui attire. Dieu, c'est en quelque sorte ce qui séduit, si on prend la racine latine. Hein, séduire, c'est attirer à soi. » Et donc, la théologie du process dit « Dieu, c'est ce qui me met hors de moi, ce qui me met en chemin, ce qui me met en route, ce qui réinjecte du possible. » Raphaël Picon dirait « C'est ce qui propose de nouveaux défis à relever. » On pourrait dire « C'est ce qui élargit un peu plus l'horizon. » Voilà, il y a une sorte d'appel d'air. Il est écrit dans les prophètes, c'est le verset 45, ils seront... Oui, donc vous voyez, au passage, on est repassé encore avec le dernier jour. Hein. La résurrection, le dernier jour, c'est un leitmotiv ici. Hein. Donc il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui, vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, donc ça c'est contre la théologie qui dirait... Eh bien oui, une vision mystique, c'est le fait de le voir, de voir Dieu comme on voit quelqu'un d'autre. Sinon, celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. Et du coup, qu'est-ce qu'être chrétien, disons, pour faire vite, c'est celui qui découvre qu'il a dans son origine, dans son appel, quelque chose qui est de l'ordre du divin. Donc, c'est pas sur le plan biologique que les choses se jouent, c'est est-ce que je réponds à un appel qui est à l'origine de ma vocation, qui est à l'origine de mon chemin, qui est à l'origine de mon projet. Du coup, est-ce que je m'inscris dans cette tradition de l'appel de l'attirance ? En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors là, c'est... La vie éternelle, donc on a tout ce qu'on avait vu la fois dernière, donc Zoen Aionion. Il y a juste un petit quelque chose, c'est pour ça que je vous ai pris la traduction de Darby. Vous voyez que « en moi », c'est en italique, parce qu'en fait, ce n'est pas dans le texte grec. Le texte grec dit « en vérité, donc amen, amen, l'ego humine, en vérité, je vous le dis », ou de façon très sûre, je vous l'affirme, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Ce n'est pas une histoire de croire en moi, c'est une histoire de croire. Et alors, je vous parlais à l'instant de la théologie du process, ça serait la compréhension de la foi selon Paul Tillich, dans la théologie de la culture. Selon Paul Tillich, la foi, c'est le fait d'être saisi de manière inconditionnelle par les préoccupations dernières, par les préoccupations ultimes. Bien sûr que la foi a un rapport de confiance, selon Tillich, mais la foi, ce n'est pas d'abord un catalogue de choses auxquelles il faudrait adhérer. Et surtout pour Tillich, la foi, ce n'est pas le fait de croire dans des choses peu crédibles. La foi, c'est le fait d'être complètement accaparé par les véritables sujets, par les questions qui demeureront quoi qu'il nous arrive. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de faire le tri entre le fondamental et l'accessoire, entre l'essentiel et le secondaire. La foi, c'est celui qui va être, enfin le croyant, c'est celui qui va être entièrement happé, attiré par ce qui fait que la vie est la vie, ce qui fait que l'humanité est l'humanité. Ce qui fait qu'il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on peut dire en théologie protestante, on ne lâche rien. Mais il ne faut pas se tromper de sujet.
La justice est un sujet de première...
À condition que la justice soit raccordée à quelque chose de juste. Parce que si j'élabore la justice en fonction de mon intérêt particulier, il y a fort à parier que ce ne soit pas tout à fait la justice ultime. Il se peut que parfois ce soit le cas, mais ça demande à être un petit peu vérifié. Donc moi, je suis le pain de vie. Ça, c'est le verset qui pose problème. Ego eimi o artos tes zoes. Je suis le pain de vie. C'est ce qui va entraîner Jésus à dire, eh bien, mangez-moi, en fait. Consommez-moi. Je vous avais dit que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit d'institution de la scène à la veille de l'arrestation. En fait, il est ici, le récit d'institution de la scène. En plein ministère de Jésus, Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Et après, la polémique arrive « Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. » Donc on est vraiment sur l'opposition entre ce qui meurt et ce qui vit. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc on retrouve notre tône à Iona. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, celle que je donnerai pour la vie du monde. Donc, je vous rappelle cette histoire de descendu du ciel. Le ciel, en hébreu, c'est Shamaim. C'est un duel. On peut dire que c'est un pluriel, mais c'est un duel. Du mot Sham, Sham, ça veut dire là. En fait, Shamaim, donc les cieux, c'est là et là. Donc vous voyez, c'est cette idée que c'est l'au-delà. Donc c'est pas le ciel au sens de sky, c'est le ciel au sens de heavens. C'est donc un ciel métaphysique et pas le ciel de nos astrophysiciens. Et du coup, quand on dit que nous sommes descendus du ciel, c'est bien que nous sommes d'au-delà que le lieu où nous nous tenons actuellement. C'est-à-dire que nous sommes plus que nous-mêmes. Nous sommes chargés d'une histoire qui nous dépasse largement. Ce qu'en christianisme, on dit aisément. Le baptême, c'est ce qui nous inscrit dans une grande filiation. Et la scène, c'est aussi ce qui nous inscrit dans une grande filiation. Et du coup, nous sommes au bénéfice des promesses qui ont eu lieu avant. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans le discours de Jésus, c'est qu'il parle du dernier jour et de la résurrection en nous rattachant à ce qui précède et en reprenant l'histoire du peuple hébreu qui sort pour dire « Maintenant, il y a plus que ce qui a été vécu jusque-là. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Eux, ils en restent sur la littéralité. C'est ce que faisait un peu Jean-Jacques Rousseau. On disait « Mais alors quoi, il se donnerait un bout de lui-même, etc. Il se mangerait comme ça. » Enfin bon. Jésus donc leur dit « en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, donc vous voyez, on est en pleine institution de la scène, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, on est vraiment dans la configuration où le dernier jour, c'est non seulement la résurrection, mais c'est ce qui a été annoncé par cette eschatologie proleptique, c'est-à-dire la vie éternelle, on pourrait dire aussi le royaume. Le royaume, c'est cette qualité de vie aussi où il n'y a rien à regretter. C'est le moment où il n'y a plus rien à acheter, en fait. On a fait le tri. Bon, est-ce que sur ce premier passage, vous avez des questions ou des remarques ? Bon, on va pouvoir s'enfoncer dans 1 Corinthiens 15 qui vaut le détour quand même. 1 Corinthiens 15 qui n'est plus beaucoup lu et utilisé ces derniers temps parce qu'il pose des problèmes à certains sur la question de la matérialité de la résurrection. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, 1 Corinthiens 15, donc il y a tout le chapitre qui parle de cette question de la résurrection et ça commence par la résurrection de Jésus. Donc voici ce que dit Paul. « Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous annonçais, que vous aussi vous avez reçu, dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Donc, là, on se place dans une tradition de réception et on va voir quelle est la place que Paul occupe dans cette tradition. Car je vous ai communiqué avant toute chose, donc protois, en premier, ce que j'ai reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alors peut-être juste un petit point de détail sur Christ est mort pour nos péchés. C'est extrêmement ambigu comme phrase. Le grec c'est hyper, donc c'est au-dessus d'eux. Alors il y a deux façons de comprendre ça. Christ est mort à cause de nos péchés, c'est une traduction possible. Hyper peut être utilisé comme par exemple je suis heureux à cause de toi. Donc on utilise hyper. Voilà. Tu es la cause de mon bonheur. Hyper. Hyper c'est quand même au-dessus. Hein, quand vous faites de l'hypertension, c'est que vous avez une tension qui est un peu trop forte. Et du coup, on peut aussi garder ce sens, à savoir que Christ est mort sur nos péchés. Au sens où, ben voilà, ça vient les couvrir, ça vient les effacer. On arrête avec ça. On ne fait plus une théologie fondée sur la notion du péché, de la culpabilité, et sur le fait qu'il faudrait se faire pardonner, qu'il faudrait sacrifier des choses. Voilà. Il y a en quelque sorte le solde qui est apporté là. Comme c'est ce que dit à un moment donné Paul pour mettre fin à une autre polémique avec l'histoire du péché originel. Admettons qu'il y a un péché originel, dit Paul, admettons que le péché soit entré par un homme, et bien en tous les cas, avec Jésus-Christ, il est sorti par un homme, donc maintenant on passe à autre chose. Et dans une certaine mesure, je pense que la théologie de Paul sur cette question du sacrifice au sujet des péchés, donc c'est pas au sujet, c'est sur le péché ou à cause du péché, c'est une façon de neutraliser la question du est-ce que Jésus se sacrifie, est-ce que c'est... Il faut faire une lecture sacrificielle de cela. On verra ça pour la période de Pâques. Donc, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par Képhas, donc ça sera Pierre, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés jusqu'à présent.
Il a oublié Marie.
Il a oublié Marie. Oui. Oui. Oui, absolument. Mais, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, il n'a pas.
Il
les
a vus la première et ils ne l'ont pas cru, des juifs menteurs.
Hein. Ouais, sur ce coup-là, effectivement, Paul fait un petit peu œuvre de misogynie quand même. Jusqu'à présent, quelques-uns se sont endormis, ça veut dire quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Et en fait, ensuite, c'est en dernier. Après tous, comme d'un avorton, hein, c'est le premier mot du verset 8, eschaton. Donc, après tout, c'est en dernier, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Donc, Paul prend la place du dernier, au sens chronologique du terme. Et... là, je pense que Paul fait preuve de filouterie. C'est-à-dire qu'il utilise la dynamique qu'on a dans les évangiles. Si tu veux les honneurs, mets-toi en dernier, comme ça on viendra te chercher, on te mettra au premier rang. Et ceux qui seront les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de la fausse modestie. C'est-à-dire que délibérément, on se met à la fin, on s'humilie, dans l'espoir qu'on vienne ensuite nous dire « Mais non, tu es magnifique, ça, tu vaux bien mieux que ça, je ne pense qu'à toi, tout ça, voilà. » Donc ça, c'est de la fausse modestie, ce n'est pas de l'humilité. Et là, je pense que Paul est un peu pris en flagrant délit de fausse modestie.
Il y a du remords quand même d'avoir persécuté.
C'est ce qu'il va dire, oui. C'est que... le remords, c'est le bon terme, en fait. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté. Néanmoins, quand on voit dans la deuxième épître aux Corinthiens comment il utilise cet argument, c'est quand je suis faible que je suis fort, ta grâce donne toute sa mesure dans ma faiblesse, c'est qu'il va lutter contre des super apôtres en essayant de faire comprendre aux Corinthiens qu'il est quand même meilleur que les autres. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir un double jeu sur la question de l'eschatologie. Donc ici, c'est Paul qui est le dernier, c'est l'eschaton, il vient à la fin de tous. Moyennant quoi ? Moyennant quoi, ça signifie qu'il est aussi le plus proche, du coup. C'est-à-dire qu'en étant le dernier, il est aussi le dernier à l'avoir vu. Donc c'est lui qui a les nouvelles les plus fraîches. Il futait, ce Paul.
Il
ne
l'a pas vu vivre.
Et donc, la question du dernier, vous voyez, ce n'est pas simplement le fait que ça serait... Enfin, c'est même surtout pas le fait que ça serait moins glorieux parce que ça arrive après tout le monde. C'est qu'en fait... C'est le plus proche du temps de la résurrection. C'est le plus proche du temps de Dieu. Et donc, c'est celui qui a la plus grande intimité, en fait. Et en fait, le dernier, c'est ça. Le dernier, c'est celui qui est dans l'intimité du temps de Dieu. Parce que le dernier jour appartient à Dieu. Dans l'Apocalypse, auquel Françoise faisait référence, on entend que quelqu'un est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Même mieux que cela... C'est Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, donc le protos, et le dernier, eschatos, le commencement, arché, et la fin, telos. Donc vous voyez, on a Apocalypse verset 22, chapitre 22, verset 13, donc c'est à la fin de l'Apocalypse, hein, il faut quand même avoir réussi à accéder jusqu'à ce chapitre. Hein. On a la concentration absolue, alpha, oméga. Commencement et fin, et premier et dernier. Et ça, le bornage appartient à Dieu. C'est-à-dire que quand on est à côté de ce bornage, on est à côté de Dieu. C'est symbolique. On pourrait, c'est ce vocabulaire qui est repris par Paul Tillich avec la question de l'ultime. Quand il parle de l'ultimate concern, donc la préoccupation ultime ou fondamentale, c'est qu'on est proche du dernier. Donc, on vient après le fameux tri. Et le tri, on va voir comment il se fait chez Paul. Bon, est-ce que là, déjà, vous êtes encore ou je suis en train de vous perdre ?
Mais Paul, en fait, Paul n'ayant pas vu le tri du vivant, je me demande toujours comment il a reconnu quand il l'a vu après.
Par la foi.
Puisqu'il n'avait pas vu vivant.
Alors, qu'il ne l'ait pas vu vivant, je ne suis pas sûr que ce soit précisé dans les textes. Il n'est pas impossible qu'il l'ait croisé à Jérusalem. Il peut être dans la foule des personnes, des pharisiens qui sont en discussion avec lui. À supposer qu'il ne l'ait pas rencontré, soit ça ne change pas grand-chose parce qu'il ne l'a pas non plus vraiment rencontré sur le chemin de Damas. Je veux dire par là que le chemin de Damas, ce n'est pas une vision comme nous nous voyons là. C'est une relecture d'un événement où pour lui, quelque chose s'est passé qu'on peut appeler conversion, ou métanoïa pour être plus précis. La métanoïa, en grec, c'est méta après et nous, l'intelligence. Donc c'est l'intelligence qui s'ouvre à quelque chose qui vient après. Donc une intelligence qui s'ouvre sur plus que ce qu'on prenait, qu'on comprenait jusque-là. Alors que la teshuva, en hébreu, c'est le fait de faire demi-tour. Donc la métanoïa, c'est accéder à une meilleure compréhension. Et c'est ce qui se passe avec Paul, qui va finalement ouvrir les yeux et qui va finalement comprendre que jusque-là, il clochait des deux pieds, pour reprendre une image de l'Ancien Testament. Et là, il va du coup, effectivement, changer de rapport à l'autre, et il va changer aussi de centre de gravité. Là où la loi était son centre de gravité, il va dire que c'est le Christ crucifié et ressuscité qui devient son centre de gravité. Et pour lui, la justice, elle ne s'élabore pas en fonction de la loi qui a été reçue, mais en fonction de cette dynamique mort et résurrection. Autrement dit, qu'est-ce qui nous conduit à la vie ? Et qu'est-ce qui nous conduit, non pas à l'échafaud, mais à la croix. Et c'est ça qui va être son crible pour passer tous les actes à la moulinette de ce qui doit être gardé ou pas. Verset 10, dans la série « L'humilité, ça sera pour un autre jour ». Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors, comme ça, ça semble bien en français. Mais quand on regarde en grec... Donc, charity de Théo, donc par la grâce de Dieu, eimi o eimi. Eimi o eimi. Mais c'est une traduction grecque de l'hébreu eye asher eye. Je suis qui je suis, je suis qui je serai. C'est une citation de l'Éternel dans Exode 3 au buisson ardent. Paul qui se met dans la situation de Dieu. Tranquillement.
Ah oui, oui.
Et pourquoi il peut le faire ? Légitimement, moi je suis d'accord avec lui, hein, il a raison. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Mais précisément parce que c'est le dernier. Et parce qu'il est le dernier, c'est celui qui est le plus proche. Et donc, c'est intéressant parce que dans le concert des religions, l'antériorité n'est pas forcément le meilleur critère. Vous voyez, les églises historiques dont nous faisons partie, grosso modo, n'ont pas à se prévaloir de cette antériorité-là. Parce que ça ne veut pas dire qu'elles soient finalement les plus proches. Ça ne veut pas dire qu'elles soient les plus éloignées non plus. Mais ce qui est intéressant, et c'est en ce sens que les églises de réveil, c'est en ce sens que c'est important ce qu'elles disent sur la conversion à nouveau nécessaire. C'est une façon de nous rappeler que la foi, ce n'est pas une histoire d'ADN. C'est-à-dire que ça ne se transmet pas génétiquement d'une génération à l'autre. Donc chacun doit faire sa démarche personnelle et chacun doit accéder à cette dimension individuellement. Et la foi de nos pères, enfin la foi de nos parents, c'est la foi de nos parents. Et elle peut nous inspirer, elle peut nous instruire, mais au fond...
On peut la remettre en question.
Au fond, on peut la remettre en question parce que c'est nous les derniers. Et donc, c'est nous les plus proches.
Une question ?
Oui.
Si, quand Paul cite l'Ancien Testament, c'est normalement la Septante qu'il suit ou... Parce que, bon, en ce cas-là, c'est un livre homme.
Absolument, oui. Alors, je pense qu'il cite plutôt les Targoumim. C'est-à-dire que c'est l'époque où on a la paraphrase araméenne, et c'est ça qu'il doit connaître, à mon avis. Mais Paul est pharisien, donc il connaît le texte hébreu. Donc, sur une phrase aussi sensible que celle-là, il n'a aucune raison de passer par la Septante. Parce que c'est quasiment la confession de foi primitive, avant même le Shema Israël. C'est l'être de Dieu qui est dit dans Exode 3. Et donc, à mon avis, cette phrase, il la prend directement du Tanakh, donc de la version hébraïque, sans avoir besoin de passer par la Septante. Sinon, pour répondre à votre question sur l'usage, quel est l'usage de Paul, est-ce qu'il prend la Septante ou est-ce qu'il prend le Tanakh, j'ai pas en tête d'éléments qui me permettraient de vous répondre sur l'ensemble. Simplement sur celle-ci, c'est comme si vous étiez à l'étranger, à toi la gloire, vous le prenez à partir de la version française et pas à partir d'une version anglaise ou allemande. Parce que, le cantique à toi la gloire, parce que ça fait partie du patrimoine, et voilà, là on y accède directement.
Parce que ce parallèle entre les évangéliques et Paul, il me parle d'un monsieur où Paul, c'est quelqu'un qui est toujours convaincu d'avoir raison. Avant sa métanoïa et après sa métanoïa des contraires, mais dans tous les cas, il a toujours raison. Lui. Ça fait partie de son caractère.
Mm-hmm.
Et c'est exactement le contraire de ce que vous avez dit sur Tirish, où la foi est une forme de questionnement.
Oui.
Pour moi, bon, on m'a posé la question hier soir. As-tu la foi ? Alors, j'ai pas cette de quoi s'agit-il ? Sont deux définitions opposées.
Oui, le fait d'avoir la foi, ça signifie qu'on aurait un objet, donc. Et ça, c'est l'opposé de Tillich, c'est l'opposé de ma compréhension aussi des textes bibliques. C'est que la foi, c'est pas un objet, c'est ce qui fait de nous un sujet, en fait. Vous savez, c'est ce qu'on disait à la Réforme, la différence entre les protestants et les catholiques. C'est que les protestants ont une foi qui croit, la fides quae creditur. Les catholiques ont une foi qu'il faut croire, la fides quae creditur. Et du coup, on parlait de l'objet de la foi. Dans une certaine mesure, ça reste vrai. À quoi reconnaît-on qu'un chrétien est un chrétien ? Certains vont dire, parle-moi de tes dogmes, de ta dogmatique, de ta doctrine, et je dirais si tu es chrétien. Puis d'autres vont dire, montre-moi un peu ta façon d'aimer la vie, d'aimer les autres, et je te dirai si tu es chrétien ou non. Jacques, précisément, et sur cette optique-là. Mmh. Et c'est un débat au sein du protestantisme. Moi, j'aurais tendance à reconnaître, je ne suis pas pour les étiquettes, mais une personnalité profondément chrétienne au sens du Christ, dans quelqu'un qui ne revendique rien et qui, à la limite, même serait plutôt contre toute forme de religion, mais qui a un regard sur la vie, un regard sur l'autre, qui n'est pas, sûrement rappelé, aussi bien des Jésus-Christ que des Albert Schweitzer dans ses meilleurs jours, des Martin Luther King ou autres. Et tant pis s'il n'a pas la bonne définition de l'eschatologie proleptique. Bon.
La foi, il faut la vivre.
La foi, c'est ce qui fait vivre, même.
Voilà.
Faire vivre la foi, c'est déjà considérer que c'est un peu comme un programme. L'évangile est un programme, mais la foi, c'est plutôt le fait de se dire que l'évangile, c'est le programme. Oui, Théodore Monod, par exemple, quand il disait, après toutes les idéologies du XXe siècle, quand même un truc qu'on n'a pas encore essayé, c'est l'évangile. Et lui, il y croyait vraiment. C'était ça, la foi. C'était de se dire, il n'y a pas à transiger. Sur ces questions-là, que ce soit l'écologie, que ce soit le désarmement, que ce soit la paix, etc. Aucun compromis, parce que c'est trop essentiel. Voilà. Si je commence à négocier là-dessus, après, il y a tout qui part. Il était complètement saisi de cette question-là.
Mais en plus, ce n'est pas seulement la foi de ses pères, non, c'est soi-même, notre foi peut évoluer, et
ah oui.
Doit évoluer.
Ah oui, oui.
La foi qu'on avait à
15 ans,
c'est pas forcément la foi qu'on a.
Elle a intérêt à être...
après.
Voilà. C'est exactement ça. En fait, voilà, c'est exactement la bonne exégèse de tout ce paragraphe. La foi de 15 ans, elle doit mourir et voilà. Il faut ressusciter.
Et il faut ressusciter.
Sinon, ceux qui sont venus après nous sont plus proches de Dieu que nous le sommes.
Naturellement.
Parce que si nous ne bougeons pas dans notre compréhension du divin, dont on dit qu'il est vivant, donc ça signifie qu'il bouge. Si nous ne changeons pas, ça veut dire qu'on est resté à un état antérieur. Donc, le divin évoluant, si nous on n'évolue pas, on s'éloigne. Et donc, le dernier arrivé est le plus proche.
Ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que les personnes qui ont vu la télévision, ils m'ont dit qu'ils avaient absolument par la télévision que les évangélistes, c'était les seuls et vrais protestants. Donc, j'étais un peu surprise.
Moi, pour moi, les évangélistes, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après, il y a les courants évangélicals, ça c'est autre chose. Mais c'est amusant parce que même les évangéliques disent que ce ne sont pas des évangélistes. C'est un problème de journaliste. Mais ensuite, qui est le plus pur? C'est celui qui se nourrit du pain de vie quand même.
Personne, visiblement, l'image du protestantisme va chuter dans les années qui viennent.
On en reparlera dans les années qui viennent.
Bien.
Moi, j'ai pas mauvais espoir sur nous-mêmes.
Hein. Ça a évolué
d'une
manière. C'est l'image,
en tout cas,
évolue.
Mais... Moi, je serai plus là.
Bon, on verra ça. je suis qui je suis, en fait. Ou je suis ce que je suis, si on suit la traduction là. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'orgueil du tout, hein, tout va bien. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi et vous avez cru ainsi. Or, si Christ a prêché qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection de morts, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication est donc vaine aussi. Et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouver de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes donc encore dans vos péchés. Vous voyez, il y a souvent le mot « vain » qui revient, c'est « kéné ».
Qu'est-ce qu'on appelle le péché ?
Oh, je vous le dis tous les à chaque fois. Ben, vous l'avez ici.
C'est la séparation avec Dieu.
C'est la séparation d'avec soi aussi.
Et avec soi et avec Dieu.
C'est quand
les gens confondent faute et péché.
Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est le péché, c'est d'avoir vécu dans l'illusion d'une vie authentique. C'est quand on se leurre. Dimanche dernier, je parlais du péché d'Adam et Ève. Il n'y a pas question de péché dans ce texte, mais supposer qu'il y ait un péché, c'est parce qu'ils se sont mépris sur ce qu'il y avait de bon à vivre. Et du coup, leur vie n'a pas pu être à la hauteur de ce qu'elle aurait pu être.
Tandis que la plupart des gens, quand ils parlent de péché, ils voient ça comme acte malhonnête.
Oui.
J'ai volé un billet de 50 euros à mon voisin. C'est un péché.
Oui, oui.
C'est pas bien.
Par exemple,
c'est pas bien.
C'est péché de penser que ça, c'est du péché.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est péché.
Mais c'est pas ça, le péché. C'est autre chose, le péché.
Voilà. Donc vous voyez tout ce jeu de domino. Hein, s'il y a un domino qui tombe, il y a tout le reste qui s'écroule. Et alors, c'est un texte qui du coup pose problème pour beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec la notion de la résurrection. Et une fois, on discutait dans une pastorale où il y avait plusieurs sensibilités. On avait un collègue qui me disait, si jamais... un jour, l'archéologie fait qu'on retrouve le corps de Jésus, pour moi, tout s'écroule, quoi. C'est-à-dire que, pour lui, la résurrection se fonde sur la résurrection matérielle, corporelle, auquel cas, si jamais on découvre un tombeau qui, en fait, n'est pas vide, du coup, tout le reste, pour lui, n'a plus aucun sens. On était quelques-uns à dire que, pour nous, la résurrection, elle ne se joue pas sur la matérialité du corps, et justement en utilisant ce passage, et on va voir comment ça fonctionne. Du coup, on va mieux aussi comprendre ce que signifie la résurrection, et puis on va voir que l'eschatos est en train d'arriver. Donc maintenant, j'en suis au prenons 21. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Vous voyez, c'est la neutralisation de Paul. Bon, à supposer qu'il y a un péché originel. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices Christ, puis ceux qui sont venus du Christ à sa venue. Vous voyez, une sorte de chronologie. Et ensuite, la fin. Donc là, c'est le télos. Quand il aura remis le royaume de Dieu, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, donc il aura aboli tout arché, tout principe fondateur, et toute autorité, toute exousia, et puissance dunamine. Autrement dit, quand il va remettre le royaume, donc le royaume des cieux, c'est le temps de Léon, Lion, c'est ça qui est proleptique, c'est-à-dire que une fois que la logique divine est intégralement adoptée par tout le monde, alors dans ce cas-là, on entre dans ce temps de la résurrection, du rétablissement. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi, et ça c'est le eschatos, le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Donc, ça signifie que, évidemment, le Christ n'assujettit pas Dieu, puisque c'est Dieu qui lui a permis d'assujettir le reste. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, donc soumises, on pourrait dire aussi, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. La rhétorique de Paul est sympathique, mais il faut prendre le temps de la digérer. Donc, le Christ, en fait, se remettra ou remettra sa fonction à Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés ? Donc, là, c'est sur les morts. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux ? Pourquoi nous aussi bravons-nous le péril à toute heure ? Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je meurs chaque jour. Vous voyez, il y a bien cette idée que ce n'est pas une fois pour toutes que le tri est fait, qu'en permanence, il convient de nous décharger de ce qui encombre. Si, pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une petite citation que vous avez déjà entendue. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de sens à ce que nous vivons, ben, quand il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie, en fait. Et en fait, le télos ou l'eschaton, c'est ce qui nous donne une orientation et ce qui, du coup, donne un sens. Non pas un sens forcément en termes de contenu, mais un sens comme un vecteur a un sens. Et du coup, on va plutôt dans cette direction. Et puis, on prend le chemin qui est le nôtre. Mais globalement, on n'est pas en train de tourner en rond. Vous voyez ? C'était notre première séquence. Qu'est-ce que le temps ? Est-ce qu'il y a une orientation du temps biblique ? On avait dit à la fois, la Bible reconnaît qu'il y a des circularités. Les saisons reviennent, les jours reviennent, les occupations reviennent, les besoins physiologiques reviennent. Mais ça avance un petit peu, comme le tire-bouchon, cette liaison hélicoïdale. Et ici, on voit que la question du sens est également posée. Ça ne fait pas du surplace. La vie n'est pas un sens giratoire à la manière de Raymond Devos, qui, une fois qu'il est entré dessus, il ne peut plus en sortir. Donc, mangeons et buvons car demain nous mourrons, avec Colette, ça signifie vis le temps présent. Et pour certains, ça peut être une forme de cynisme. Bon, ben voilà, c'est notre dernier repas et puis advienne que pourra. Non, il n'y a pas de fatalité, en fait, dans la logique chrétienne. Donc, ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si on était Homère, on dirait n'écoutez pas le chant des sirènes. Pour vivre justement, et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Donc, c'est ce que vous disiez, hein, le péché, c'est d'être éloigné du divin, d'être dans cette... Non, c'est pas une histoire de larcin, c'est une histoire de rupture.
C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on disait souvent aux enfants.
Hein. On rompt la relation. Mais quelqu'un dira... Et c'est là que ça devient intéressant pour la question de la matérialité. Comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils ? Insensé ! Ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons, et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différente est la gloire des célestes et différente celle des terrestres. Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Mais voilà, l'incorruptibilité... Ça pourrait se dire en termes plus modernes, ce qui est inconditionnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut pas être altéré par autre chose. Inoxydable, on dirait aussi. C'est un bien absolu. Pour reprendre la définition de l'éternel, selon Paul Ricoeur, il disait les grains d'éternité, c'est quelque chose qui est inaltérable. On pourrait dire incorruptible. C'est vraiment ultime. C'est ce qui est dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient après. Et du coup, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de regret, pas de remords. Il est semé en déshonneur. Donc, tel que nous, on le comprend, le déshonneur, c'est souvent sous l'angle de la faute morale. Mais c'est en fait, c'est ce qui perd sa nature. C'est-à-dire ce qui risque de pourrir. Précisément le corps qui va se décomposer, qui va retourner à la poussière. Il ressuscite en gloire, il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Le psaume 103, par exemple, dit bien que la condition de l'homme, c'est la fragilité. Il est comme l'herbe des champs, le vent passe, il souffle, et hop, le lieu où était l'herbe oublie cette herbe-là. Mais face à cette fragilité, le psaume 103 dit aussi que l'Éternel n'oublie pas de quoi nous sommes faits. Et du coup, c'est ça qui va assumer notre condition fragile. Et comment notre condition fragile va être ressuscitée ? Eh bien, Nous sommes semés corps animal, nous ressuscitons corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est la capacité de l'homme à se tenir devant l'éternel. Une âme ?
Une force.
Non. Une âme, c'est...
Force spirituelle.
Non, c'est une posture.
Une posture.
C'est le fait d'être, de porter sa vie devant l'ultime. Et c'est parce qu'on ne mesure pas sa justice en fonction de nos envies, mais en fonction de l'universel, que nous sommes une âme. En revanche, l'esprit, c'est notre capacité à être en relation les uns avec les autres, et une relation interpersonnelle, une relation qui rejoint l'autre vraiment dans son univers. L'exemple toujours à prendre, c'est Pentecôte. Les apôtres qui peuvent se faire comprendre des étrangers. Ça veut dire qu'ils arrivent à rejoindre l'autre dans ce qu'il y a de plus intime pour eux. Donc ils font ce voyage d'une culture à une autre. Et c'est l'esprit qui permet cela.
L'âme, c'est une posture devant la vie. Alors.
Oui, c'est une posture conquérante même.
Une posture conquérante, oui.
Voilà. Parce qu'on est attiré. Voilà. Et l'esprit, c'est notre capacité
c'est
à être...
C'est une force, si c'est une posture conquérante.
Non, c'est parce que nous sommes au bénéfice d'une force.
Voilà, on est au bénéfice
voilà.
de cette...
Voilà.
Il a dit, c'est ainsi qu'il est écrit, c'est écrit nous à l'heure de là.
Pardon ?
Il dit, c'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Alors, c'est écrit...
Ça, c'est dans la Genèse.
C'est écrit, devint une âme vivante.
Dans la... Ouais, Nefesh Raya. Les animaux sont des Nefesh Raya aussi.
Ah, bon. L'esprit, c'est la capacité, hein.
Sa capacité à être en relation les uns avec les autres. Et à être en lien avec les autres, non pas sous l'angle des discussions de café de commerce, mais quand nous abordons justement les questions de l'être, quand on s'intéresse vraiment à l'autre, quand on lui pose de vraies questions, où es-tu ? Pour reprendre celle de dimanche dernier. Voilà. Et les textes bibliques nous montrent que l'esprit, c'est justement quand on permet à l'autre d'être un peu plus lui-même. C'est-à-dire quand on le fait exister. Et ça finit comme ça, le texte de Pentecôte. Ils étaient... Vous savez, il y a ce constat, mais ils sont pleins de vin doux ou quoi ? C'est-à-dire que... On ne les reconnaît plus, et c'est vrai. Ils étaient hors d'eux-mêmes, dit le texte, et être hors de soi, c'est exister. C'est se tenir hors d'eux. Et l'esprit, c'est ce qui nous permet de nous tenir hors. Je veux dire, là, précisément, on ne s'en tient pas qu'à soi. Bon, c'est un petit peu à sens unique, mais vous renouvelez peut-être, je l'espère, votre compréhension de ce texte ou de la spiritualité par un autre que vous. Et voilà, l'esprit souffle dans la mesure où je me fais comprendre et que vous augmentez votre capacité de compréhension et d'existence.
Ça, on la teste.
Ouais, ça se teste. Ça se teste notamment dans le domaine religieux, mais dans le domaine familial.
On la teste.
Ah, d'accord. Très bien. Mais vous pouvez le tester aussi, même si vous l'avez attesté. Précisément, vérifiez qu'on n'est pas dans un processus sectaire. Donc vérifiez qu'on n'est pas dans un groupe qui nous diminue dans notre capacité d'être. C'est vrai dans la vie familiale. Est-ce qu'on n'est pas dans une famille toxique ? Quand il y a l'esprit, on est dans une famille qui nous épanouit. Sinon, il manque quelque chose. Il manque un peu une fenêtre ouverte, quoi. Voilà. Vivre en vase clos, en général, c'est pas trop vivre selon la dynamique de l'esprit. Voilà, verset 47. Le premier homme est tiré de la terre poussière, le second homme est venu du ciel. Donc, c'est ce que Jésus disait lui-même, hein, descendu du ciel. Donc, il est de l'au-delà, mais c'est que précisément, il injecte du neuf. Donc, il évite la stérilité. Hein. La stérilité, c'est l'entre-soi. Je saute au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, dans l'Apocalypse, à la dernière trompette, donc c'est l'eschatone, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mort, et que ce mortel revête l'immortalité, donc ce qui ne meurt pas. Et ici, il faut comprendre ce que signifie l'immortalité. Parce que souvent, on dit la vie éternelle, c'est le fait d'être immortel. Mais ce n'est pas le fait d'être immortel en tant qu'être physiologique. Ici, vous voyez, l'immortalité, elle est rattachée à la question de l'incorruptibilité. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit question de changement. Nous devenions autres. C'est-à-dire qu'il est là le tri. On reconfigure notre identité, notre existence, notre histoire, parce que il y a par exemple des héritages que l'on ne va pas prendre pour soi. Il y a des aspects de notre jeunesse qu'on ne va pas supprimer, mais qu'on ne va pas revendiquer comme constitutif de notre présent. Vous savez, c'est souvent ces hommes politiques qui ont eu un passé d'extrême ceci ou d'extrême cela, et puis ils ont changé. Et on ne peut pas leur tenir grief d'avoir eu une jeunesse. Il faut aussi accepter qu'ils aient changé. Et dans ce changement-là, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'il fallait laisser de côté parce que ça ne convenait pas. Bon, ben voilà, il y a eu quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est vrai, c'est le travail spirituel, en fait. Mine de rien, c'est un travail mystique que fait Paul. Paul est un mystique, en fait. Et le travail du mystique, c'est justement de débarrasser l'existence de ce qui encombre, pour parler un peu vulgairement, mais de ce qui ne porte pas l'être à son incandescence. Donc ce qui ne porte pas l'être à son incorruptibilité. Et c'est un peu l'esprit de Charles Wagner dans son ouvrage sur la vie simple. C'est essayons de ne conserver que ce qui nous permet d'être vraiment nous et de rendre les autres vraiment eux-mêmes. C'est-à-dire, essayons d'aller au plus juste. Et il commence son ouvrage sur la vie simple par le récit d'une noce. Ça, c'est comme une ruche, ça grouille dans tous les sens, etc. Plein de soucis, des inconvénients, des contretemps, etc. Puis il y a des petits-enfants qui sont un peu perdus dans cette grande pagaille et ils vont trouver refuge auprès des grands-parents qui sont dans une pièce, calmes, sereins, parce qu'ils savent que l'essence du mariage n'est pas tout le tralala de la fête. Et que l'essence de la vie n'est pas dans tout le faste, etc.
Les apparences.
Et les petits-enfants, dans ce récit de Charles Wagner, trouvent chez les grands-parents à la fois une sérénité et une stabilité qui leur donne le goût de ce qui compte vraiment. Et là où on peut se dire que des fois la vieillesse offre un visage pas très séduisant pour les jeunes enfants, eh bien il faut se détromper de cela. C'est parfois au contraire quelque chose d'extrêmement positif pour les plus jeunes parce qu'ils voient enfin quelque chose qui vit à un rythme qui correspond à l'intuition de ce que doit être le monde. Et en tous les cas, les enfants ont cette intuition de ce qui est vraiment utile, essentiel, et ce qui ne l'est pas. Je reprends volontiers cette image du film Citizen Kane, qui commence par des enfants qui jouent avec une luge, et puis il y a un enfant qui a une carrière qui explose, il devient magnat de la presse, l'homme le plus riche du monde, c'est le top du top, puis à la fin de sa vie, en fait, son dernier mot, c'est Rosebud, c'est le nom de la luge. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie, quoi. Et que c'est quand il jouait avec ses camarades qu'il était vraiment vivant. Et que autrement, il a réussi aux yeux de Léon, de Lion du monde, du cosmos, mais que Lion éternel, il est resté en arrière. Et donc, c'est une invitation à, comme le fait Paul, en permanence, mourir à tout ce qui nous empêche. Vous voyez, c'est pour ça que le thème de la liberté dans Jean 6, être libéré de l'esclavage. C'est extrêmement, extrêmement performant pour nous faire comprendre ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quand on est vraiment libre d'accomplir. Et alors, verset 55, en grec, « Poussou tanate to nikos, mort, où est ta victoire ? Poussou tanate to kentron, où est ton aiguillon ? Tu as perdu, ma cocotte. » Voilà.